Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24. Florent Guignard.
Bonjour, bienvenue dans Mardi politique. Nous recevons cette semaine le secrétaire d'État au commerce extérieur, à la promotion du tourisme et aux Français de l'étranger. Bonjour Mathias Feckel.
Bonjour.
Jeune ministre dans Mardi politique, vous avez 37 ans, vous êtes au Quai d'Orsay, votre ministère de tutelle depuis le départ de Thomas Thévenoud du gouvernement, il y a presque 6 mois. Nous sommes ensemble pour 40 minutes. Psychodrame dans la majorité, le FN au cœur de l'actualité, l'esprit de janvier bel et bien terminé pour vous interroger. À mes côtés, Roselyne Fèvre de France 24. Bonsoir Roselyne.
Bonsoir Florent.
Et Lilian Alemania de Libération. Bonsoir Lilian.
Bonsoir.
Le Front National est-il le premier parti de France? Oui, si l'on en croit le sondage IFOP publié hier par Le Figaro, 30% des intentions de vote aux élections départementales du mois prochain. Oui encore, si l'on écoute Arnaud Montebourg, l'ex-ministre de l'économie, frondeur, officiellement en retrait de la politique. Écoutez pourtant le message qu'il envoie des États-Unis, de l'université de Princeton, où il donne des cours.
Si on continue sur cette politique suicidaire... Et je lance un appel solennel aux dirigeants politiques européens, au président de la République, au Premier ministre, de cesser ces erreurs politiques économiques. Nous finirons le quinquennat avec 800 000 chômeurs de plus. Donc c'est le Front National au bout du chemin. Voilà ce qui se prépare.
Une politique suicidaire, Mathias Feckel. Voilà la sympathique carte postale que vous envoie Arnaud Montebourg des États-Unis. 600 000 chômeurs de plus depuis l'élection de François Hollande. Et un FN qui passe de 18% en 2012 à 25% aux européennes de juin. Et peut-être donc 30% au cantonal du mois de mars. Arnaud Montebourg a raison d'établir un lien entre ces deux chiffres, le chômage et la montée du Front National.
Moi, je suis élu d'un département qui connaît à la fois le chômage et le Front National.
Le Lot-et-Garonne.
Le Lot-et-Garonne. Et je crois bien placé pour voir ce que donne dans la réalité de notre pays à la fois la montée du désespoir et la montée du Front National depuis de longues années, parce que c'est pas un phénomène nouveau. Donc à l'évidence, c'est quelque chose que tous les responsables politiques ont en tête, cette nécessité de lutter à la fois contre le chômage, contre les difficultés économiques qui existent partout. Mais il suffit pas de dire il faut. La réalité, c'est que la situation de notre pays aujourd'hui, elle est très dure, et sinon on n'en serait pas là. Et donc il y a énormément de choses à faire, c'est sur ça que le gouvernement aujourd'hui travaille, pour lutter contre les causes de la crise économique, contre les difficultés que traverse notre pays et que traversent beaucoup de Français concrètement dans leur vie quotidienne.
Il y a deux questions que pose Arnaud Montebourg. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ce lien qu'il établit entre la montée du chômage et la montée du Front National? Ça c'est la première question. Et la deuxième question, c'est ce qu'il dit aussi... Le FN prospère à cause de la politique économique mise en place par François Hollande.
D'abord, il a participé à la mise en œuvre de la politique économique pendant les années au cours desquelles il était au gouvernement. Et donc, si elle est suicidaire, il fallait sans doute s'en rendre compte avant. La réalité, c'est que les populismes, et en particulier l'extrême droite, progressent partout en Europe. Et donc, c'est ça qu'il faut regarder. C'est dans de nombreux pays... la montée en puissance de thèses haineuses, de thèses d'exclusion, de thèses d'extrême droite.
Et le populisme d'extrême gauche également.
Oui, mais
aussi,
enfin,
dans les pays du Sud.
Qu'il faut pas mettre sur un même plan, parce que ce qu'on peut voir à l'extrême gauche n'a, à mon avis, rien à voir avec ce qu'on voit à l'extrême droite, notamment en termes de haine prônée.
Et non, mais le commun,
malheureusement,
si vous voulez, c'est le rejet des élites. On le voit en Grèce avec Tsipras et cette alliance totalement surnaturelle avec les Grecs indépendants, un parti antisémite et d'extrême droite.
Alors, non, mais... si on regarde Syriza, il y a beaucoup d'élites intellectuelles qui sont impliquées dans Syriza, beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'universitaires et qui participent à ça, à ce gouvernement et qui expriment des choses. Moi, je mets absolument pas Syriza sur le même plan que l'extrême droite. Ça me paraît une erreur d'analyse très importante, et dans les idées qui sont exprimées et dans les gens qui votent pour les uns et pour les autres. Mais sur le Front National,
on parlera de la Grèce.
Il n'y a pas de réponse simple et il n'y a pas non plus de cause unique. À l'évidence, le chômage de masse qui mine notre pays depuis maintenant des décennies, à quelques exceptions près, mais globalement c'est le constat, est quelque chose d'extrêmement destructeur. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des inquiétudes diffuses mais réelle, très présente dans la société française face au monde tel qu'il va. Des interrogations sur est-ce que la France a encore sa place dans la mondialisation ? Est-ce que notre pays a un avenir dans l'économie telle qu'elle se dessine aujourd'hui à l'échelle européenne et planétaire ? Et c'est à ça qu'il faut répondre, en montrant que lorsque notre pays est innovant, est dynamique et offensif, eh bien, il s'en sort. Et c'est à chaque fois qu'il baisse les bras ou qu'il recourt à des solutions anciennes que finalement les choses vont mal.
Alors, vous faites précisément référence à la politique du gouvernement, la politique de François Hollande, cette politique de l'offre qui est contestée au sein même du Parti Socialiste. Il y a une espèce de psychodrame hein, depuis une semaine, depuis l'utilisation de l'article 49.3 pour faire passer la loi Macron. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il y a deux gauches de gouvernement irréconciliables au sein du Parti Socialiste ?
Non, ça je crois pas. La gauche, elle a toujours été diverse et il y a toujours eu des débats à gauche. Et moi, honnêtement, je préfère des débats de fond à gauche qu'une droite qui, elle, se divise pour savoir s'il faut encore être républicain ou s'il faut courir après l'extrême droite, qui met 48 heures avant de savoir si entre un Front National et un socialiste, il faut choisir le socialiste ou pas. Je veux dire, c'est pas du tout la même nature de division. Vous avez d'un côté des choses qui me paraissent irréconciliables, oui, entre deux lignes à droite, et à gauche des débats de politique économique qui existent, qui sont quasiment aussi anciens que le Parti Socialiste lui-même, si on regarde l'histoire. Donc elles vont pas être résolues demain, elles vont pas être réglées comme ça d'un coup de baguette magique, mais ce qui est sûr, c'est qu'autant il y a des débats à gauche qui sont tout à fait normaux, autant le gouvernement a pris ses responsabilités ces derniers temps, et notamment la semaine dernière.
Lilian Alemania, Libération.
En même temps, on le voit sur la question de la loi Macron, on a un Premier ministre qui tend beaucoup plus la main aux centristes, qui disent non, et que à sa propre aile gauche, voire à des partenaires et des alliés traditionnels du Parti Socialiste, que sont le Parti Communiste, que sont une frange des écologistes. Comment c'est tenable ça pour le Parti Socialiste aujourd'hui ? C'est un peu ça qui est nouveau, c'est que le chef de la majorité, il est plus au centre du Parti Socialiste.
J'ai pas le sentiment sur la loi activité et croissance que c'est ça qui se soit passé. Quand vous regardez les rapporteurs qui ont été désignés, le rapporteur Richard Ferrand qui a fait un travail parlementaire très important, différents rapporteurs thématiques sur tel ou tel thème de la loi, vous aviez parmi ces rapporteurs des gens qui étaient parmi les frondeurs ou qui avaient beaucoup d'interrogations et qui sont dans ces débats-là, mais qui ont participé.
Il y a eu des amendements qui ont été acceptés des transcentristes et celui qui a été proposé par Benoît Hamon juste à la fin a été rejeté par le gouvernement.
Il y a eu un très long débat parlementaire, il y a eu plus de 100 heures de débat parlementaire, il y a eu 1000 amendements je crois qui ont été adoptés, il y a eu un ministre qui a été très présent au Parlement, des parlementaires tous dans la commission et ensuite en plénière.
Mais à la fin, un compromis qui ne se fait plus.
Mais à la fin, un compromis, manifestement, qui, sur un certain nombre de points, n'est pas allé jusqu'au bout. Bon. Mais il y a eu, avant ça, plus de 100 heures de débat, un texte considérablement enrichi et transformé par le Parlement. C'est quelque chose de très important qui s'est passé hein, dans ces heures et ces heures de débat et de travail de fond.
Et est-ce que vous dites, justement, comme un certain nombre d'autres socialistes, ras-le-bol des frondeurs, c'est une minorité, ils sont infantiles, il faut les sanctionner. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là, cette minorité qui empêche finalement la cohésion du gouvernement ?
Le gouvernement, il n'a pas de problème de cohésion et il a pris ses responsabilités.
Mais peut-être que
c'est ce qui s'est passé.
Peut-être que les Français ont un problème de lecture, ils ne voient pas très clair.
Il y a le Parlement. Et moi, quand j'étais député, j'étais suffisamment régulièrement présent pour dire il faut respecter le Parlement pour pas maintenant commencer à donner des règles de comportement au Parlement. Simplement, le gouvernement qui avance sur son agenda de réforme a pris ses responsabilités et après un long débat parlementaire, très sincèrement, beaucoup de points de vue ont été pris en compte, ont été écoutés. Donc on peut pas dire qu'il n'y a pas eu de débat, c'est faux. C'est pas comme à l'époque du CPE où le 49.3 était intervenu avant même qu'il y ait des débats pour couper court au débat parlementaire. Là, il y a eu un long débat qui est allé à son terme, qui n'a pas abouti sur l'ensemble des points malheureusement. Mais c'est quand même ça la réalité de ce travail politique fondamental qui s'est fait au cours des dernières semaines.
Mathias Feckel, une question de Roselyne Fèvre de France 24.
Oui, vous avez raison quand vous dites que effectivement la gauche a connu et connaît encore ces fameuses querelles byzantines qui durent depuis des décennies. Avec plusieurs PS au sein du PS. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est, on a connu la parenthèse, cette fameuse parenthèse au moment de François Mitterrand, mais aujourd'hui, la vraie question, c'est comment on fait, vous êtes au gouvernement, comment on fait cohabiter ces deux lignes ? Où est la fermeté ? au Parti Socialiste, puisque l'autorité, c'est la raison d'être de Manuel Valls. Qu'est-ce qu'on leur dit aux frondeurs? Est-ce que il y aura un compromis? Ça va être, pardonnez-moi l'expression, pampan-cucu, c'est pas bien ce que vous avez fait? Ou il y aura véritablement des sanctions? On fait quoi? Vous faites quoi?
Le gouvernement, il n'a pas à sanctionner tel ou tel. Il y a des institutions dans la République française, il y a un Parlement qui est là pour voter les lois.
Il y a une discipline de parti.
Mais le parti, il est en train d'ailleurs de travailler là-dessus, le Parti Socialiste, ce soir même.
Voilà, il y avait un bureau national du Parti Socialiste.
Mais il est libre de s'organiser, de rappeler un certain nombre de règles qui sont des règles de vie en commun, sans que le gouvernement, là-dessus, ait un avis à donner. Mais évidemment, le gouvernement, ce n'est pas le Parti Socialiste, et inversement. Pardon de rappeler ça, mais le Parti Socialiste est en droit, est tout à fait légitime à dire qu'il y a un certain nombre de règles à respecter, qu'il y a une loyauté à avoir, et en même temps, nous, à être au travail pour faire avancer les réformes.
Oui, mais pardonnez-moi, ces divisions, ce spectacle qu'on donne...
Oui, et que certains livrent complaisamment.
Il est le résultat de ce que disait tout à l'heure aussi Arnaud Montebourg.
Vous savez, le spectacle, pardon,
les médias sont pour beaucoup
dans le spectacle quand il y a... Alors, insister sur les 270, députés qui étaient favorables à cette loi, insister sur les sociodémocrates de toute l'Europe qui sont retrouvés à Madrid samedi dernier pour faire avancer un certain nombre de dossiers, notamment sur le commerce international, sur beaucoup d'autres sujets qui sont d'accord sur les choses, insister sur ce qui avance, insister sur les choses qui vont bien, qui sont largement majoritaires.
Pour voter une loi, on passe le 49-3 parce que y a apparemment pas la majorité. Donc,
on ne sait pas s'il y avait. Là, le Premier ministre a dit là-dessus, il y a sans doute une majorité, mais on n'est pas certain. Et donc, on ne va pas jouer sur un texte qui est important. Et donc, il y a eu un article 49-3 qui est écrit dans la Constitution, qui a été utilisé, qui a été mis en œuvre et qui a permis à cette réforme de passer.
Mathias Fekl est l'invité de Mardi Politique, le ministre du Commerce extérieur. On va reparler du Front National, donné donc à 30% dans ce sondage IFOP. Cette question Front National, elle devient obsédante, y compris au sommet de l'État. Il y a eu une première salve de François Hollande samedi au Salon de l'Agriculture. Et puis Manuel Valls, le Premier ministre, hier, toujours au Salon de l'Agriculture, en a remis une couche.
Voter Front National, c'est détruire ce modèle européen qui a aussi soutenu l'agriculture française. Et je pense que d'ailleurs, les valeurs de travail, de solidarité, de mérite, cette volonté de transmettre notamment ce savoir-faire à la jeunesse, sont aux antipodes de ce qu'est l'extrême droite. Donc l'extrême droite et le monde rural ne peuvent pas se retrouver.
Voilà, Manuel Valls au micro de Simon Rosé hier. Pourquoi le Front National est aujourd'hui au centre de la vie politique, Mathias Fekl?
Peut-être d'abord un mot sur la ruralité, puisque c'est de cela qu'il a été question au Salon de l'Agriculture. Dans la ruralité, il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a des services publics qui trop longtemps ont fermé. Il y a le sentiment souvent d'être éloigné à la fois des décisions qui sont prises, d'être éloigné finalement du monde tel qu'il va, tel qu'il avance, d'être éloigné de certaines opportunités, de certaines chances, et aussi de se dire « mes enfants ne vont pas réussir à avoir des opportunités pour faire les études qu'ils veulent, trouver leur métier, pouvoir aller de l'avant dans la vie ». C'est tout ça qu'il faut reconstruire. La société française aujourd'hui, elle est trop figée. On a peur de perdre. Parce qu'une fois qu'on perd, bien souvent, c'est irrécupérable et irrattrapable, et on vous met comme ça sur le côté. Et il faut donner aux gens à nouveau la possibilité de vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. Et d'une certaine manière, encore une fois, sur le Front National, il n'y a pas une réponse simple, mais il y a beaucoup de gens qui se sentent éloignés, oubliés, et auxquels il faut redonner confiance en prenant des décisions qui les concernent, qui changent concrètement leur vie, qui améliorent leur quotidien et qui remettent aussi des perspectives sur la génération qui suit, sur les jeunes qui sont parfois aujourd'hui assignés à résidence, peuvent plus quitter leur quartier, peuvent plus quitter le périmètre dans lequel ils sont nés, dans lequel ils vont.
C'est Lyon Alémania.
Mais le gouvernement a préparé, a mis en place des assises de la ruralité, mais qu'est-ce qu'il en sort au final? Parce que on a bien compris que le gouvernement faisait de la ruralité une question fondamentale, que Manuel Valls avait pris ça en compte, mais concrètement, on voit pas qu'est-ce que vous leur proposez à ces populations-là.
C'est pas vrai. D'abord, ça ne résume pas la ruralité, mais sur l'agriculture, qui à l'évidence en est une composante importante, il y a des décisions très importantes qui ont été prises. D'abord, la sauvegarde de la PAC par le président de la République, un de ses combat très important pour que cette politique continue à servir l'agriculture française, continue à l'accompagner pour être plus innovante, plus moderne, plus compétitive à l'échelle du monde.
Et vous l'expliquez justement aux agriculteurs,
ils n'ont pas besoin qu'on leur explique, vous savez. Ils n'ont pas besoin qu'on leur explique la vie, les agriculteurs. Ils savent très bien.
En même temps, c'est ce que François Hollande et Emmanuel Valls ont fait. En disant sans Europe, l'agriculture française, elle meurt.
Mais parce que c'est un fait. Et un fait qu'il faut rappeler. Mais ils le savent très bien. Ils savent très bien qu'à la fois, à travers les politiques qui existent, à travers le marché européen qui existe, l'Europe est pour eux une opportunité, avec aussi des difficultés. Il peut y avoir de la concurrence déloyale qui s'exerce sur bien des domaines, que ce soit dans les normes qui sont respectées différemment par différents pays, que ce soit sur les questions de concurrence déloyale en termes de travailleurs. Donc tout ça, ça concerne l'agriculture. Mais les agriculteurs savent très bien que sortir de l'Europe, sortir de l'euro, ce serait la fin du modèle agricole français tel qu'il existe aujourd'hui et tel qu'il est réputé dans le monde entier.
Alors, les élections départementales, Mathias Fekl, 22 mars, premier tour, 29 mars, second tour. Est-ce que le Front National est la menace principale des socialistes, pour les socialistes ?
Le Front National, c'est pas une menace pour les socialistes. C'est une menace pour la République. Parce que toutes les valeurs qu'ils prônent du matin au soir, que ce soit de manière directe ou que ce soit de manière plus insidieuse, sont destructrices pour ce qu'est notre pays. Et donc, il faut se battre contre ça, à la fois en affirmant un certain nombre de principes de manière très claire, et puis aussi en étant sur le terrain présent. Et vous savez, beaucoup d'élus sortants, républicains, moi je connais évidemment mieux ceux de ma famille politique, mais beaucoup d'élus sont présents, connaissent leur territoire et ont envie que les choses s'améliorent.
Mais vous leur dites quoi à ces électeurs-là qui sont tentés dans votre département de voter Front National au mois de mars ? Qu'est-ce que vous leur dites ?
D'abord, je les écoute beaucoup. Et moi, je connais beaucoup de gens qui sont tentés par ce vote-là. Assez peu par adhésion, en réalité. Parfois par colère, parfois par peur ou par perte de repères,
par
ou
déception.
Dépit, par déception aussi, mais simplement par désarroi. Et c'est souvent un vote de désarroi. Et il y a évidemment une petite frange où c'est un vote d'adhésion et de conviction pure à ces idées-là. Donc beaucoup d'écoute, et puis ensuite de leur dire que toutes les propositions concrètes qui sont faites par le Front National, parce que la politique, c'est quand même d'abord des décisions à prendre et des politiques à mettre en œuvre, seraient un désastre pour ceux-là même qui aujourd'hui peuvent se tourner vers le FN.
C'est une défaite.
Sortir de l'euro, ça aurait pour conséquence immédiate de remettre en cause la stabilité de notre monnaie, des attaques spéculatives qui auraient lieu, et ça aurait pour conséquence un renchérissement du coût de la vie, d'abord, pour qui ? Pas pour les riches, pour les classes populaires, pour les classes moyennes, pour ceux qui aujourd'hui se disent « on n'y arrive plus ». Et donc c'est de dire que les conséquences du vote, mais concrètement, dans leur vie de tous les jours, auraient des effets absolument désastreux et qui seraient, sonnant, trébuchant et très vite mesurable dans la vie de chacun.
Alors ces élections départementales, on l'a vu, le Parti Socialiste part un petit peu seul dans cette bataille. Il y a seulement 20% de candidatures PS Europe Écologie Les Verts. Il y a seulement 50 listes communes PS communistes. Est-ce que la défaite du Parti Socialiste et de la gauche qui détient une soixantaine de départements, est-ce qu'elle n'est pas déjà là en germe dans cette division de la gauche au premier tour ?
Non, mais d'abord, il y a un premier tour, et puis ensuite, il y a un second tour.
Bah, il faut se qualifier déjà pour le second tour.
Mais absolument. Et l'enjeu de cette élection, c'est un enjeu de mobilisation de la gauche contre la droite et l'extrême droite, qui bien souvent maintenant se rassemblent et sont à peine possibles à distinguer, puisque et dans les discours et dans les faits et dans les votes, les choses se rejoignent. Donc il y a un enjeu de mobilisation. Et un enjeu aussi de savoir que concrètement, un département qui est de gauche ou un département qui est de droite, eh ben les politiques qui sont menées, c'est pas la même pour la prise en charge de nos aînés, de nos anciens, sur la dépendance, pour la solidarité, dans les cantines, dans les écoles, tout ce qui fait le quotidien de la vie dans un département. Mais c'est pas la même chose d'avoir des majorités qui sont attachées à la solidarité et d'autres qui sont sur le chacun pour soi.
Très rapidement, c'est une défaite annoncée pour vous ?
Une élection, elle se déroule, il y a une campagne avec beaucoup de candidats de grande qualité qui sont ancrés sur le terrain, qui défendent leurs convictions et leur travail. Et donc ce sont les Français qui décideront ça au moment des élections.
Voilà, Mathias Fekl qui ne veut pas encore employer le mot défaite pour ses départementales. Une courte pause, les informations, et on se retrouve juste après.
Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Florent Guignard.
C'est la seconde partie de Mardi Politique avec le secrétaire d'État au commerce extérieur, à la promotion du tourisme et aux Français de l'étranger, Mathias Fekl. Roselyne Fèvre de France 24 et Lilian Alemania de Libération sont toujours à mes côtés pour vous interroger. On en vient tout de suite à l'actualité européenne, la Grèce et cet accord finalement conclu entre le gouvernement d'Alexis Tsipras et les pays de la zone euro. Le programme d'aide européen continue et tout à l'heure François Hollande a salué un bon compromis.
Je pense que c'est un bon compromis qui a été trouvé, qui est à la fois respectueux de ce qu'a exprimé le peuple grec, mais en même temps respectueux des règles que l'Union européenne, et notamment la zone euro, veiller à assurer la pleine garantie. Pour ce qui concerne la France, elle respecte toujours ses engagements, comme vous le savez, et donc elle les respectera pour les prochains mois et les prochaines années.
Voilà, François Hollande au micro de Tudor Tupenag. Le président dit que cet accord est respectueux des électeurs grecs. Et pourtant, ces derniers jours, ce qu'on a vu, le sentiment d'un point de vue démocratique, c'est un petit peu finalement la mise sous tutelle des promesses de campagne de Syriza, non ?
La Grèce a beaucoup souffert, et le peuple grec en particulier. Et donc il est normal que l'Union européenne prenne cela en compte et tienne compte aussi du vote du peuple grec au moment des élections qui ont donné le gouvernement actuel. Dans le même temps, les autres États de l'Union européenne sont aussi des démocraties. Je me suis même laissé dire que pour entrer dans l'Union européenne, il fallait être une démocratie. Et donc il est normal que ces différentes démocraties du continent puissent se rencontrer, puissent échanger, puissent voir comment à la fois prendre en compte et les souffrances du peuple grec et le vote qu'il a exprimé, et puis en même temps aider, accompagner la Grèce dans le chemin vers l'avenir. Donc il y a besoin de faire des réformes en Grèce, ça tout le monde le sait, et en même temps, il y a besoin de donner du temps, il y a besoin donner la capacité aux Grecs de faire un certain nombre de choix sur les réformes à mettre en œuvre, le calendrier, et c'est ce qui s'est passé dans cet accord-là, et je crois que tout le monde peut s'y retrouver, le peuple grec et les différents peuples de l'Union européenne.
Alors Angela Merkel, la chancelière allemande, a quand même prévenu, la tâche de la Grèce n'est aucunement terminée. Alors Mathias Fekl, vous avez, on va dire, une particularité biographique, c'est que vous êtes issu d'un couple franco-allemand, hein, votre père est allemand, votre mère française, vous êtes né en Allemagne. Est-ce que la France et l'Allemagne aujourd'hui disent la même chose sur la Grèce ?
Oui, je crois. Il y a une volonté d'aller de l'avant. Alors, les sensibilités, à l'évidence, sont différentes. Et le président de la République, depuis son élection, est engagé dans un combat pour réorienter l'Europe et qui commence à porter ses fruits.
Vous avez vraiment l'impression que c'est un combat ? On n'a pas vraiment l'impression que François Hollande est un combattant acharné
européenne. Je sais bien que depuis le début, un certain nombre de commentateurs essayent d'installer l'idée qu'il n'y a pas de combat, que tout est nul et que rien n'avance. Mais quand on regarde la réalité des choses...
Je n'ai pas dit ça.
Je visais pas en particulier.
On relève seulement que François Hollande n'a pas pu renégocier le traité budgétaire.
C'était une des promesses de campagne. En attendant, de tourner l'Europe vers la croissance et vers l'investissement. De premiers pas très importants ont été faits à travers notamment le plan Juncker, qui est un début important. Moi, je vois sur les dossiers que je suis, moi, sur le commerce extérieur, les sociaux-démocrates se sont retrouvés ce samedi à Madrid pour se mettre d'accord sur un certain nombre de points pour inventer les règles du commerce mondial de demain. Et ça vient après d'abord des initiatives de la France qui ont été constantes à ce sujet, à travers des démarches que j'ai faites avec les Allemands pour se mettre d'accord sur ces sujets-là et être capable de porter des choses. Donc, quand on y va en Europe, les choses peuvent bouger, et c'est ce que le président de la République fait depuis le début.
Lilian Alemania,
Mathias Fekl, dans l'image qu'on a aujourd'hui en Allemagne, enfin en Europe, pardon, on se tourne vers Berlin et plus vers Bruxelles. On se tourne vers Angela Merkel, Wolfgang Schäuble, et on parle de l'inflexibilité des Allemands. On se tourne vers l'Allemagne, plus vers la France ou vers une concertation européenne. Ce qui pose aussi problème, ce qui refait renaître certains nationalismes. On le voit en Grèce, l'image de l'Allemagne en Grèce est très mauvaise. Qu'est-ce que vous leur dites à vos camarades du SPD en Allemagne, à vos amis allemands que vous pouvez croiser quand vous allez les voir, sur l'image de l'Allemagne aujourd'hui dans le reste de l'Europe et notamment dans le Sud ?
D'abord, les sociaux-démocrates ne sont pas à convaincre, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'en Ukraine, quand il y a une démarche du président de la République et de la chancelière pour essayer, avec le processus de Minsk, de faire revenir la paix dans cette région du monde aux portes de l'Union européenne, c'est l'Allemagne seule qui le fait, que la France n'est pas présente.
Non. Ça, c'est un autre sujet. Là, on est sur les questions économiques.
C'est un sujet, c'est une démarche européenne. C'est
comme une démarche franco-allemande. Qui a l'argent décide.
Incontestablement, le fait que l'économie allemande aujourd'hui se porte mieux, qu'elle exporte davantage, qu'elle soit plus dynamique, est un plus pour l'Allemagne.
Ça, c'est un scoop pour personne. Ça donne le droit d'imposer une vision politique à un autre pays qui a fait un autre choix politique.
Certainement pas. Et dans le compromis qui a été acté à Bruxelles, je crois que cette part-là a été prise en compte. Il n'y a pas eu de volonté de dire, les amis, maintenant, demain vous faites ci, après-demain vous faites ça, et surtout on discute de rien. Ça, c'est quelque chose de neuf, certainement, avec des inflexions là-dessus. Et je suis convaincu que la voix de la France y est pour quelque chose.
C'est-à-dire que la méthode Hollande, assez consensuelle, selon vous, est plus bénéfique qu'une confrontation avec l'Allemagne, comme la réclament certains de vos camarades socialistes.
Ce qui est sûr, c'est qu'en Europe, quand on veut avancer, il faut être capable de mettre d'accord un certain nombre de pays sur des décisions. Et moi, je vous parlais tout à l'heure de mes dossiers sur les questions de mécanismes d'arbitrage, notamment dans les traités commerciaux. Alors, ça peut paraître un tout petit sujet, mais j'aurais très bien pu arriver en étant nommé, en disant « La France exige, on veut ci, on veut ça, tous les autres n'ont rien compris, vous êtes des nuls, et voilà comment il faut faire ». Je fais tout le contraire. Le résultat, c'est qu'à peine 6 mois après, tous les sociodémocrates européens sont aujourd'hui d'accord sur les propositions que j'ai portées dès le début. Et cette démarche-là, qui est une démarche alors parfois moins flamboyante que de venir devant les caméras en se faisant plaisir sur des sujets, en disant « voilà, on voudrait ceci, on voudrait cela », elle porte ses fruits. Elle est parfois plus difficile à faire comprendre, c'est plus difficile de communiquer là-dessus, mais c'est comme ça que concrètement les choses avancent en Europe, et c'est ce qui se passe aussi sur d'autres sujets.
Roselyne Fèvre de France 24.
Alors c'est vrai qu'avant les élections, en Grèce, je voudrais revenir sur Tsipras. L'actuel Premier ministre, du coup, voulait renverser la table. Il a joué un peu les Rambo avec son acolyte Yaroufakis. Et on voit aujourd'hui, dans le fond, qu'ils sont à l'épreuve des réalités. Ils vont devoir, ils avaient promis d'augmenter le salaire minimum. Ils pourront pas le faire. Donc, cette épreuve de la réalité, est-ce que aujourd'hui, on peut servir de l'exemple grec, dans le fond, qui est obligé de rentrer dans le rang, pour faire comprendre peut-être aux Français que les promesses de Marine Le Pen, alors on est dans des extrémismes différents, c'est l'extrême gauche en Grèce, en France c'est l'extrême droite, mais que le principe de réalité, les promesses, dans le fond, n'engagent que ceux qui les croient, et notamment les électeurs.
Encore une fois, moi je ne mets pas
Ma question est un peu tordue, mais je crois que vous
l'apprenez. Non, mais... Moi, je ne mets pas du tout les choses sur le même plan. Et la victoire de Syriza, elle a fait naître un espoir en Grèce, et aussi au-delà,
oui,
parce que ceux qui étaient à la clé... Oui, mais c'est aussi...
Ils n'ont pas renversé la
c'est
table.
C'est aussi une volonté de ne pas simplement s'accommoder des choses telles qu'elles vont, et de considérer que la réalité, elle est comme ça, et donc il faut faire avec. Donc il y a ce cri-là qui a été porté par le peuple grec. Franchement, entre une espérance et une désespérance, les choses entre l'extrême gauche et l'extrême droite me semblent pas les mêmes. Mais sur la réalité, ce qui est certain, c'est que tout le programme, notamment économique, du Front National, est un délire de bout en bout. Ne tient pas debout. Et ça, c'est ce qu'il faut dire en permanence. Et pas le dire sur un mode, encore une fois, de donneur de leçons. Il faut le dire de manière très précise. Sortir de l'euro, folie pure pour les ménages français, pour les classes populaires françaises, pour les classes moyennes françaises. Vouloir remettre en cause les politiques européennes, que ce soit la PAC, que ce soit d'autres sujets, c'est de la folie. Ça ne marche pas, et c'est pas comme ça, en s'abritant des évolutions du monde, en construisant des lignes Maginot partout autour d'elle, que la France pourra aller de l'avant.
Et les
ça va être en dynamique, offensive, en retrouvant une confiance aussi, ouais, que nous pourrons y arriver.
La question, elle était plus centrée, entre les promesses et la réalité. On a un exemple.
Est-ce que finalement, on peut échapper aux politiques d'austérité aujourd'hui, finalement?
Ce qui est sûr, c'est que l'austérité, c'est pas un projet politique. Qu'il faille faire des réformes dans tel ou tel pays, c'est une évidence. Quand les choses vont mal, il faut regarder ça en face. Mais on peut pas fixer à des peuples, quel que soit le peuple européen ou d'ailleurs, de dire, les amis, le projet que nous vous proposons pour les 10 ans qui viennent, c'est de souffrir. Non, ça c'est pas une perspective politique, et c'est pas ça le sens de l'engagement politique des uns et des autres. à l'évidence. C'est pas mobilisateur. Il y a besoin de mobiliser à nouveau les citoyens en Europe pour qu'ils retrouvent un peu le goût de l'avenir. Voilà.
Mathias Fekl, vous y faisiez allusion il y a quelques minutes. Le couple franco-allemand, il fonctionne sur l'Ukraine, la crise ukrainienne. Mais il y a cette question, au fond, qu'on se pose depuis des mois. Que dure cette crise ? Est-ce qu'on peut faire confiance à Vladimir Poutine ?
En tout cas, c'est un interlocuteur, puisque c'est lui qui est aujourd'hui en responsabilité et que c'est avec lui que se traitent les choses. Vous savez, la diplomatie, c'est aussi ça. Et donc, il y a besoin aujourd'hui de travailler avec la Russie, d'être en lien avec eux. Et c'est ce qu'a fait le président, à la fois quand il fait escale à Moscou, à la fois quand il y a des démarches avec la chancelière pour essayer de faire cesser la situation telle qu'elle est aujourd'hui et de faire revenir la paix dans cette région du monde.
Rosine Fèvre.
Alors, vous l'avez dit, il y a eu cette initiative, effectivement, avec Angela Merkel, qui est la bienvenue, saluée par tous. En revanche, ça arrive un peu tard. En tout cas, c'est arrivé, et vous en félicitez.
Le processus de Minsk, il n'est pas arrivé avec cette initiative.
Non, Minsk 2, je parlais.
Mais oui, ça fait longtemps que la diplomatie française, avec Laurent Fabius, avec le président, sont mobilisés pour faire avancer les choses.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un aveuglement et une faiblesse diplomatique des Européens qui n'ont pas su déchiffrer suffisamment tôt Poutine et son expansionnisme. Dans le fond, est-ce qu'on a, on n'a rien vu venir?
Je ne sais pas ce qui permet de porter un tel jugement. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il faut essayer d'améliorer la situation et il faut aussi que l'Union européenne soit consciente de la manière dont il faut avoir des relations avec ses voisins, que ce soit aux portes de l'Union, que ce soit plus loin. Donc, je pense pas là aussi que les choses soient simples. D'où la détermination de la diplomatie pour essayer de l'avant.
Cette crise ukrainienne, Mathias Fekl, elle a des répercussions directes sur vos dossiers, hein, le commerce extérieur. Est-ce que vous savez combien les sanctions européennes imposées à la Russie ont coûté jusqu'ici à l'économie française ?
C'est difficile à évaluer parce que il y a des choses un peu impalpables là-dessus. Ce qu'on sait, parce qu'on fait le point secteur par secteur, c'est que c'est extrêmement difficile pour de nombreux secteurs de notre économie, notamment dans notre agriculture. Et encore ce matin au salon, plusieurs producteurs me parlaient de cela. Alors,
mais vous lui dites quoi, par exemple, aux paysans de Lot-et-Garonne qui s'intéressent plus à son propre avenir qu'à l'avenir de l'Ukraine ?
Mais je lui dis la vérité. D'abord, il y a un contexte géopolitique. Et donc les causes, elles sont géopolitiques. Les répercussions sont économiques. Mais le problème, à la base, n'est pas d'abord économique. Donc il faut régler et essayer de régler. Mais c'est difficile, la situation géopolitique et politique. Et ensuite, il faut essayer, secteur par secteur, de voir comment trouver d'autres débouchés pour l'export français. Et là-dessus, moi, à chaque déplacement, c'est vrai pour le ministre de l'Agriculture, c'est vrai pour tous les membres du gouvernement, à chaque déplacement, on essaye d'ouvrir de nouveaux marchés pour trouver des débouchés alternatifs à nos productions françaises lorsqu'elles ne peuvent plus s'exporter vers la Russie.
Et les Mistral, on en est où ?
J'ai aucun commentaire à faire sur ce sujet-là.
C'est un dossier régalien, ça se passe entre le président de la République, le ministre de la Défense ?
Ça se passe au niveau de l'État où ça doit se passer.
Mais pour prolonger la question de Roselyne Fèvre, quand Nicolas Sarkozy vend les Mistral à la Russie, juste après la crise géorgienne, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'aveuglement ?
Écoutez, la France, elle a une politique à la fois de diplomatie et de commerce qui essaye d'être cohérente et qui essaye de marcher ensemble. Et entre le Quai d'Orsay, le ministère de la Défense, le Premier ministre, le Président de la République, les choses là-dessus
sont bien mises en
œuvre. Mais est-ce que ça va ensemble,
le Qatar, par exemple ? Le Qatar, il y a une diplomatie, il y a un petit problème avec le Qatar, on est d'accord ?
Le Qatar,
l'ambiguïté avec
Daesh. Vous y étiez il y a pas très longtemps.
Moi, j'y étais.
Mais faut-il s'affranchir pour autant, du coup, de l'économie et des affaires qu'on fait avec le Qatar ? Voilà.
D'abord, il y a beaucoup de secteurs. Moi, j'étais au Qatar, notamment autour de sujets sur le tourisme, notamment autour de sujets sur la ville durable. Comment faire en sorte de construire des villes qui soient respectueuses de l'environnement, où les transports, les économies d'énergie se fassent bien.
Alors,
il y a une excellence française.
Voilà.
Mais oui, mais disons-le, La France est très en pointe là-dessus, sur nos grands groupes, nos PME qui exportent vers là.
Il y a la ville durable et puis il y a les questions d'armement.
Le Qatar,
il y a les questions
pour revenir sur ce sujet-là, le Qatar est engagé dans la coalition contre Daesh et il fait partie de cette coalition-là. Et aujourd'hui, rien ne permet de dire le contraire.
Mais quand on est ministre ou secrétaire d'État au commerce extérieur, il y a quand même cette question qui doit entrer dans votre réflexion. Est-ce qu'on peut vendre tout à tout le monde? Et je pense par exemple au Rafale vendu à l'Égypte, ça a fait beaucoup débat. Est-ce qu'on peut vendre des armes de guerre à un dictateur?
Mais à l'évidence, on ne peut pas vendre tout à tout le monde. Et la France a toujours eu ce message-là. Elle l'a porté, y compris dans les enceintes internationales, pour faire adopter à l'OCDE et ailleurs des règles, des pratiques pour encadrer les choses. Mais très sincèrement, il n'y a aucun régime de sanction, il n'y a aucun régime d'exclusion contre les États avec lesquels nous sommes en relation sur ces sujets-là. Et ils sont bien souvent engagés avec nous dans la lutte contre Daesh, dans la coalition contre Daesh. Et c'est ça la réalité géopolitique telle qu'elle se pose aujourd'hui.
Mathias Fekel, il y a un gros dossier dont vous avez la charge et vous en avez parlé il y a quelques minutes. Hein, ce sont les négociations sur le futur accord commercial transatlantique entre l'Europe et les États-Unis, le fameux TAFTA. C'est l'objet de beaucoup de fantasmes. Lilian Alemania va vous interroger là-dessus.
Vous en avez dit deux mots tout à l'heure. Il y a un dossier que vous vouliez aborder sur ce sujet-là, c'est la question des tribunaux arbitraux. Donc, pour être rapide, c'est que deux États, il y a un problème, c'est des tribunaux privés qui doivent régler ce problème commercial. Une entreprise pourrait attaquer une législation, la législation française. Tous les sociaux-démocrates se sont mis d'accord pour être contre. Est-ce que ça suffit? Parce que beaucoup dans votre camp disent on peut pas laisser juste cette question des tribunaux arbitraux de côté et ne pas s'attaquer à ce traité qu'il ne faut pas signer.
D'abord, il s'est passé des choses très importantes ces derniers temps sur les questions des négociations. À l'initiative de la France, à l'initiative de l'Allemagne, et vous avez vu au début de l'année une démarche commune, puisque je me suis rendu à Berlin pour travailler ensemble sur ce sujet avec Sigmar Gabriel, avec mon homologue Matthias Machnik, pour avancer. Et à partir de cette démarche, nous avons ouvert le travail et les chefs d'État et de gouvernement sociaux-démocrates se sont mis d'accord ce week-end sur un certain nombre de principes, mais qui sont des principes forts, puisque ce qui est en train de se passer, c'est l'invention des modalités de règlement des différends économiques propres au commerce international du 21e siècle.
Si c'est pas un tiers, c'est qui
nous avons tracé plusieurs perspectives, notamment autour d'une cour permanente de règlement des différends qu'il faut maintenant expertiser. Il faut voir ce que ça peut donner sur la déontologie des arbitres et de tous ceux qui interviennent dans le règlement des différends, sur les processus d'appel aussi, tout ce qui fait qu'une justice puisse être rendue sans être soupçonnée d'être partisane. On a vu ce que pouvaient donner certains arbitrages et on n'a évidemment pas envie que ça se reproduise au niveau international, c'est quand même le moins qu'on puisse exiger, et aussi de faire en sorte que des choix qui ont été décidés démocratiquement par des parlements ne soient pas remis en cause.
Ce serait une justice internationale du coup.
Il faut voir comment s'articule justice nationale, justice internationale, mais il faut que la justice soit rendue au nom des citoyens et que, en permanence, ils puissent savoir exactement qui décide, ce qui a été décidé, et pas avoir des zones d'ombre et d'opacité, et aussi de conflits d'intérêts tels qu'elles existent aujourd'hui.
Merci Mathias Fekel, secrétaire d'État au commerce extérieur. C'est la fin de Mardi Politique. Merci aussi à Roselyne Fèvre de France 24 et Lilian Alemania de Libération. Cette émission était réalisée par Mathias Golchani avec Alexandre Serre à la programmation. La semaine prochaine, Mardi Politique reçoit Emmanuelle Cosse, la patronne d'Europe Écologie Les Verts. Très bonne soirée à tous.